RCF. La MSA et la famille. En partenariat avec la MSA, la protection sociale du monde agricole et rural.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce grand format spécial consacré à la famille en ruralité. Quelles sont les attentes des familles en milieu rural? Comment s'adapter face à des difficultés spécifiques pour l'accès aux soins, la garde des enfants, les transports? Certaines initiatives locales peuvent se multiplier sur d'autres territoires pour faciliter la vie quotidienne des familles qui vivent à la campagne. Nous en parlerons et nous parlerons aussi du soutien à la parentalité sur les territoires pour nous aider à trouver des éléments de réponse. Avec nous, Franck Darty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du département du développement social et des services à la personne à la caisse centrale de la MSA. Jacques Drouin, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez l'association des maires ruraux de France. Vous êtes maire de Flagy dans le 77 et président de la communauté de communes du Bocage Gâtinais. Brice Alzon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président de la maison des services à la personne. Marie-France Bernard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué intervention famille pour la Fédération nationale ADESA domicile.
Grand format, la famille en milieu rural.
Commençons, si vous le voulez bien, par mieux connaître les familles en milieu rural. Je vais vous demander aux uns et aux autres de nous dire qui sont ces familles qui vivent aujourd'hui à la campagne, en ruralité, ce que vous en savez, quels sont les retours que vous pouvez nous partager, Franck Darty.
Oui, alors d'abord, vous avez parlé de la famille en milieu rural. Personnellement, je préférerais parler des familles avec un S, parce que je crois que maintenant, il y a plusieurs modèles familiaux. Et en termes d'évolution, je crois qu'on est vraiment passé de familles qui étaient, bon, avec la prégnance du modèle agricole, qui étaient des familles que je vais qualifier claniques, à maintenant des familles nucléaires, le couple, les enfants, et puis voir des familles monoparentales comme partout en France.
50% sont des actifs, 59% des familles avec enfants, 4% des familles monoparentales. Est-ce que vous avez d'autres données sur lesquelles nous pourrions nous accrocher? Quelles sont les familles qui vivent en milieu rural de votre côté, monsieur le maire?
Bien, on constate de façon très très significative, des jeunes familles qui arrivent pour retrouver un cadre de vie beaucoup plus intéressant, qui puissent aussi créer leur propre activité. On voit qu'il y a un changement de comportement au niveau des nouvelles familles, et je crois que les élus doivent bien enregistrer cette demande et comment l'accompagner. J'en dirai un petit peu plus.
À Flagy, vous avez des familles qui arrivent et qui s'installent nouvellement, si je vous entends bien, qui souhaitent quitter la ville, c'est ça?
Oui, oui, on a effectivement des familles qui sont plutôt dans une tranche de 35-45 ans, qui viennent s'installer, qui ont de véritables envies d'avoir un cadre de vie pour leurs enfants. Hein, je pense aussi qu'on pénalise souvent la ruralité en disant « oui, mais il n'y a pas de service, rien ne se passe ». Je crois qu'aujourd'hui, on est en train de complètement faire un bouleversement de cette caricature qui nous pénalisait depuis des décennies. Je crois qu'aujourd'hui, la ruralité, c'est un monde vivant, c'est un monde plein d'innovation, plein d'exemplarité. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive, et c'est bien qu'au travers des différentes radios comme la vôtre, de pouvoir transmettre ces messages, de pouvoir prolonger ces initiatives, puisque tout à l'heure je pourrais évoquer un certain nombre d'initiatives qui sont tout à fait intéressantes en matière de cohésion sociale.
Parce qu'il s'agit, lorsque ces familles arrivent en secteur rural, de pouvoir leur proposer les structures, les infrastructures adaptées à leurs attentes et à leurs besoins. Brice Alzon, vous êtes avec la Maison des services à la personne implantée partout en France, en secteur rural bien sûr. Qu'est-ce que vous savez des attentes des familles qui vivent en ruralité?
Alors c'est vrai, comme le disait Jacques Drouin, nous on constate que les familles rurales aujourd'hui ont les mêmes exigences que les familles en milieu urbain et qu'elles veulent le meilleur des deux mondes. Ce sont des familles qui ne veulent pas être isolées et donc qui ont donc des besoins d'être connectées, d'être en réseau et qui ont les mêmes exigences en termes de connexion Internet et aussi en termes de services, dont les services à domicile et les services à la personne qui sont très présents en milieu rural.
Et on entend dans votre propos une de vos idées clés. Vous parlez de fracture numérique hein, à dissoudre en milieu rural. C'est un élément que vous avez souvent observé.
Oui, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore un vrai frein en zone rurale sur cette fracture numérique, donc contrairement aux villes. Alors, ce n'est pas un. Alors, il existe effectivement beaucoup de personnes qui sont maintenant et donc connectées à Internet et en zone rurale, mais c'est une question de liée au débit. Il y a aujourd'hui beaucoup de zones rurales qui sont donc connectées en 512 donc kilobits et qui ne permettent pas aujourd'hui d'avoir accès aux services liés à la télévision numérique et aussi pour des agriculteurs de travailler donc et de façon correcte, par exemple lorsqu'ils doivent par exemple télécharger donc les dossiers de la PAC, et ça va être extrêmement lent, ça va planter.
Donc, la question de l'investissement des pouvoirs publics et des opérateurs derrière.
Exactement.
On en parlera. Marie-France Bernard, comme déléguée intervention famille pour cette Fédération nationale ADESA à domicile, vous aussi, vous êtes sur le terrain aux côtés des familles en secteur rural. Quelles sont les remontées que vous avez? Comment vous travaillez avec eux?
Je voulais faire deux petits échos suite à ce que disait notamment Monsieur le maire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les familles qui vivent en milieu rural, c'est quand même le plus souvent suite à un choix personnel, un choix individuel. Et donc derrière, il y a un besoin de services, bien évidemment, qui sont importants. Les familles qui s'installent souhaitent pouvoir avoir accès aux soins, accès à la parentalité. Vous disiez que ça serait un sujet particulier, bien évidemment, et à tout ce qui contribue au transport. Et dans les services à domicile que l'on peut proposer, c'est presque une lapalissade de dire qu'on va intervenir là où vivent les familles. C'est moins une lapalissade quand il s'agit d'organiser les services pour qu'ils aient bien lieu là où les gens habitent, dans les conditions d'organisation acceptables par tout le monde. Et donc là, il y a un véritable effort de la communauté et des collectivités au sens large, et pas seulement territoriale, pour que autant l'aide à la famille, l'accès aux soins continue d'être possible pour tous ceux qui décident d'habiter quelque part en rural.
Et une de vos opérationnalités, ce sont les soins infirmiers, hein, pour qu'il y ait une continuité des soins entre ces familles rurales et puis des phases d'hospitalisation ou des phases de soins avec d'autres acteurs de la santé.
Merci de porter l'accent sur ce sujet parce que c'est pas souvent qu'on en a l'occasion, donc encore merci. Effectivement, aujourd'hui, les centres de santé infirmiers qui sont, on va dire, la version moderne des anciens dispensaires que un certain nombre connaissent même dans les locaux aujourd'hui en milieu rural, ces centres de santé infirmiers aujourd'hui peuvent apporter et apportent complètement des services quel que soit le milieu, qu'il soit périurbain ou rural. Et aujourd'hui, ces centres de santé ont pour objet de faire des soins à domicile, bien évidemment, et aussi de faire des actions de prévention. Et donc, on a un très fort lien avec notamment la MSA, mais d'autres structures, d'autres organismes de sécurité sociale, de façon à développer des actions fortes de prévention.
Franck Darty ?
Là, je voulais intervenir, peut-être rebondir sur ce qui a été dit. Effectivement, sur les territoires ruraux, on note également un regain démographique. Mais là, peut-être que ça donne une image un petit peu classe sociale moyenne, voire supérieure, qui échange du temps de trajet pour une qualité de vie. En tant qu'organisme de protection sociale, nous, ce qu'on voit aussi, ce qu'on repère, c'est beaucoup de populations précaires qui s'installent en milieu rural, parce que, quelque part, avec le sentiment que la pauvreté, la misère sera plus belle au soleil.
Hein. Ou peut-être moins dur à vivre.
Moins dur à vivre. Ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas. Et là aussi, parce que, du coup, en milieu rural, il n'y a pas non plus les services et les offres de services ou les structures d'insertion par l'activité économique, différentes structures et services qui peuvent s'adresser à eux, qui sont implantés en milieu rural.
Alors, dans cette phase de l'émission, je vais vous demander de caractériser ce qui vous semble pour vous être la priorité de l'enjeu. Les sociologues diraient de la problématique. Bref, on s'en fiche un peu. Quelle est la priorité des enjeux pour les familles en ruralité? C'est-à-dire que je vais vous demander de faire un choix. S'il fallait avoir une action, une priorité à donner, il faudrait faire quoi pour que les familles qui vivent en milieu rural vivent mieux? Et on va faire un petit tour de table sur ce sujet. On commence par vous, Brice Alzon.
Alors, on avait fait un petit calcul lors du plan Borloo. Si chaque Français consomme une heure de solution de vie par semaine, on créerait 2 millions d'emplois équivalents temps plein. Donc voilà, moi je pense qu'il y a une façon de donc satisfaire donc des besoins et en allant vers les gens qui serait extrêmement créatrice d'emploi.
Et pour vous, c'est créer de l'emploi sur les territoires la priorité, c'est... et c'est entre autres par les services à la personne.
Voilà, exactement. C'est retourner vers le lien entre les gens. Évidemment, le télétravail est intéressant, mais ce sont surtout donc des gens qui vont venir travailler sur les lieux de vie, vers le consommateur, et ça, c'est nouveau. Et encore, donc, dans l'esprit des gens, ce n'est pas très valorisant. Un salarié moyennement donc qualifié, aujourd'hui, va préférer travailler en face d'une machine dans une usine plutôt que d'aller sur un lieu de vie des gens en face à face. Et je pense qu'il y a énormément de choses à changer à ce sujet.
Donc il faut rendre les métiers de l'accompagnement, des services à la personne plus attractifs. Ce sont des métiers non délocalisables. Et en effet, ça peut être une question plus d'emploi sur les territoires. Monsieur le maire, Jacques Drouin, pour vous, quelle serait la priorité?
Si vous le permettez, j'en donnerai deux. Mais la première sur laquelle on a réussi à démontrer que c'était possible, c'est de mettre de la cohésion sociale sur un territoire. On a mis en place, il y a 5 ans maintenant, un certain nombre de projets sur lesquels la population a complètement adhéré à ces projets. Donc de cette façon, les gens se découvrent, échangent, peuvent aussi avoir des idées en commun. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ma démarche depuis 5 ans et demi.
Donc recréer du lien social au sein
la réalité. Au travers des projets. Je vous en donne un tout simple, mais qui est assez parlant. Par exemple, le fleurissement du village, ce ne se fait pas par les cantonniers. Ça se fait uniquement par les gens du village. C'est eux qui plantent, c'est eux qui entretiennent. Et donc, vous créez du lien. Un autre exemple, on a créé une vigne bio en plein centre du village. Eh bien, les gens du village, et ils sont une quinzaine, à s'occuper de cette vigne. On a créé la mise en place de nichoirs. Il y a une commission qui s'est créée. Du coup, ils se retrouvent à 7 ou 8. Voilà, une multiplicité de petits projets locaux qui font que les gens se sont retrouvés derrière ces projets.
Qu'ils
et qui
vivent
aujourd'hui,
ensemble.
Voilà, se vivre ensemble. On a gagné quasiment le pari en mettant en place ces petits projets à échelle locale. Deuxième point, et je crois que c'est important en tant que président de la communauté de communes du Bocage-Gâtinais, c'est la mise en place d'un centre intercommunal d'action sociale. Je crois qu'aujourd'hui, il y a énormément de possibilités pour aider les personnes âgées ou même des jeunes familles avec leurs enfants, mais on ne sait pas qui fait quoi sur le territoire. Il faut donc rationaliser, il faut trouver un lieu d'écoute et il faut donc ensemble savoir que voilà, il y a ici une information précise sur ce que vous recherchez. Et actuellement, il y a une dissémination trop large de tout ce qui se fait sur un territoire. On sait que ça marche plus ou moins bien parce que, justement, on ne sait pas où identifier le vrai besoin sur le territoire.
Marie-France Bernard, même question. Si vous aviez une priorité à donner comme déléguée intervention famille pour ADESA.
J'aurais volontiers pris le relais de ce que disait Brice Alson à l'instant. Serait permettre que toute l'offre de services, puisque je suis plutôt là sur une prestation d'offre de services aux familles, quel que soit le lieu où elles habitent, donc que cette offre de services soit au maximum rendue itinérante. Pour exemple, comme disait M. Drouin à l'instant, on a pu à certains moments, et ça souvent en lien avec la MSA et de l'intercommunalité, avoir des gardes itinérantes d'enfants, c'est-à-dire d'avoir des escargoles, des bus, etc., qui permettent d'avoir des lieux d'accueil de la toute petite enfance, qui permet à une maman, même si elle ne travaille pas, qui habite dans sa commune de 500 habitants, de venir poser son enfant. Et aujourd'hui, sur ces structures d'installation qui sont de type service à la personne, qui sont de l'offre de services d'accessibilité, on a forcément des difficultés, entre autres des difficultés de financement, bien sûr, mais pas seulement. Ça, c'est important que cette accessibilité par l'itinérant soit rendue possible, que ce soit la santé, la scolarisation, le périscolaire ou la garde d'enfants.
Franck Darty.
Alors moi, tout d'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait Monsieur Drouin. Je crois que le lien social, c'est important en milieu rural et c'est pourquoi, au niveau de la MSA, en tout cas, on développe pas mal d'opérations de ce qu'on, dans notre jargon, on appelle ça du développement social local. Mais bon, ça intéresse peu vos auditeurs. Ce qui est important de savoir, là, c'est que ce sont des opérations qui s'appuient sur la participation des habitants, pas simplement pour leur demander qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils pensent, parce qu'on sait que ça, c'est déjà fait par ailleurs. Et poser des questions sur ce que veulent les gens, c'est pas forcément approcher leurs besoins, mais par contre, c'est les impliquer dans des opérations, comme a pu en donner quelques exemples monsieur Drouin. Et ça nous paraît d'autant plus important, tout à l'heure on parlait de nouvelles populations, c'est que souvent les populations néo-rurales et les populations autochtones, au mieux, je dirais, s'ignorent. Et au pire, et notamment par rapport aux populations agricoles, hein, pour des néo-ruraux, souvent ils ne comprennent pas ce qui se passe quand tout d'un coup ils pensent tout de suite que ça y est, on les pollue, les agriculteurs pollueurs, etc. Donc ça me paraît un premier point. Mais ma réponse qui me venait naturellement quand vous avez parlé de quelque part ce qu'il fallait mettre en avant comme en termes de besoins, je crois qu'au milieu rural, là maintenant, il faut vraiment mettre l'accent sur le fait que les gens puissent concilier vie familiale et vie professionnelle. Et pour cela, développer des services d'accueil petite enfance, que ce soit effectivement des gardes itinérantes et autres, mais que les personnes, comme en milieu urbain, puissent avoir le choix, et pas seulement la garde individuelle chez une assistante maternelle, mais puissent avoir le choix de garde collective. Quelque part, pour nous, c'est important parce que c'est vraiment un enjeu d'attractivité pour le milieu rural.
Donc vous êtes tous d'accord, plus de liens, plus de liants entre les familles qui vivent en ruralité, et ces liants peuvent être stimulés par divers acteurs. On va en parler, on va passer en revue là où ça peut s'opérer pour l'école, pour le transport, pour le travail et pour la santé.
La vie des familles sur les territoires avec la MSA.
Quels sont les enjeux pour les familles en territoires ruraux? On va essayer de traverser quelques thématiques pour voir ce qui s'opère, quels sont les problèmes, et puis comment on peut agir, et on verra ensuite quelles sont les initiatives locales qui ont été mises en place et qui marchent. Alors parlons des écoles. Monsieur le maire est comme porte-parole de l'Association des maires ruraux de France. Est-ce qu'il y a un désinvestissement de l'État et des collectivités locale en charge de ses compétences primaires, collèges et lycées en ruralité, ou est-ce que ces classes qui ferment, qu'on montre à la télé en ruralité, c'est marginal? Quel est votre sentiment?
Alors tout d'abord, on a un vrai problème à résoudre, hein, c'est la réforme des rythmes scolaires. En milieu rural, aujourd'hui, si on veut continuer à avoir des activités de qualité, il faut ne surtout pas travailler dans la précipitation, et pas non plus dans l'approximation.
Vous n'allez pas le faire, vous, à la rentrée?
Alors, on ne le fait surtout pas à la rentrée. Je crois qu'il est absolument nécessaire de prendre le temps pour qu'on puisse travailler avec un ensemble de comités de communes, pour qu'on essaie de trouver un personnel formé, professionnel, qui puisse apporter une dimension à tout point de vue, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit sur le plan associatif, qu'elle soit sur le plan économique, que tout le monde puisse s'y retrouver dans la qualité de ce type de prestation.
Donc pour l'encadrement des enfants, hein, pour la fin de l'après-midi, pour être clair, puisqu'il est question de terminer plus tôt. Monsieur le maire, par contre, même si ma question était un peu politique, je vais vous demander d'y réagir. Y a-t-il un désinvestissement de l'État sur les structures éducatives, écoles, collèges et lycées, ou des pouvoirs publics compétents, puisque vous le savez bien, ce ne sont pas les mêmes collectivités qui gèrent. Alors oui ou non, c'est marginal ou pas?
Non, mais on est conscient qu'on entend tous les jours un discours très pessimiste sur les dotations les plus diverses. Et c'est nous, en tant que les présidents départementaux et les maires ruraux, ont tout intérêt à être extrêmement vigilants.
Vous répondez toujours pas à ma question. Est-ce que c'est à la baisse? Est-ce que c'est maintenu ou est-ce que c'est à la hausse?
On dira plutôt que c'est largement à la baisse et qu'il faudra bien qu'on trouve des
moyens. Donc des classes ferment?
Non, elles ne ferment pas, parce qu'au contraire, aujourd'hui, le milieu rural est en train de se développer. C'est pas catastrophique. On est là aussi pour être extrêmement vigilant. Donc on sait très bien que si on n'est pas vigilant, on peut perdre la main sur la qualité de la formation au niveau du primaire, au niveau du secondaire.
Je cherche à trier l'information pour nos auditeurs. Donc, c'est pas catastrophique. En milieu rural, c'est pas on ferme des classes, non. L'État désinvestit. Finalement, vous êtes en train de nous dire il faut rester vigilant, mais il y a toujours des moyens qui sont alloués.
Les moyens sont encore présents avec des dotations plus faibles. Donc c'est à nous de reprendre la main. Et reprendre la main, ça veut dire c'est le contribuable qui va essayer de mettre un peu plus d'argent sur la table pour qu'on puisse trouver des adaptabilités correspondant à nos besoins. Mais
et
il est vrai que l'État se
s'adapter.
Désengage.
s'adapter pour, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, les fins de classe, l'aménagement dû au nouveau calendrier scolaire. Et vous dites quand même que l'État se désengage.
Bien sûr, bien sûr.
J'ai du mal à vous le faire dire. Vous n'êtes pas obligé de le dire.
Mais hein. si. Mais
vous faites comme vous voulez.
C'est pas la langue de bois. Simplement que tous les jours, on se bat pour essayer de préserver l'essentiel et qu'actuellement, on est plutôt dans une démarche plutôt négative. Et donc, on sait très bien que ça sera extrêmement compliqué à la rentrée 2014 de mettre des actions de qualité. Et la difficulté aussi, c'est que malheureusement, c'est le maire aujourd'hui et puis ses élus, hein, ses administrés, enfin surtout les conseillers municipaux, qui vont essayer d'être encore une fois de plus inventifs pour que ça marche bien.
Et cette idée est transversale, elle est unanime au sein de l'Association nationale des maires ruraux de France.
Absolument, absolument.
Alors, lorsque l'on s'intéresse à la garde d'enfants, parce que tout de suite après l'école, il y a la garde d'enfants, c'est ce qu'on appelle le périscolaire, et il faut là aussi être inventif, vraisemblablement, sur les territoires, trouver des modalités nouvelles. La MSA en propose, et puis d'autres, Franck Darty.
Oui, alors au niveau de la MSA par rapport à ces questions de périscolaire, on a lancé, et de périscolaire et également de garde du jeune enfant, on a lancé un appel à projet au sein des caisses, hein, dans le cadre de ce qu'on appelle notre convention d'objectifs et de gestion avec l'État.
Donc vers l'ensemble des 32 ou 35 caisses sur le territoire national de MSA.
Caisses, hein, effectivement,
se sont regroupées.
Pour qu'elles nous fassent remonter des solutions innovantes de garde du jeune enfant ou également des solutions innovantes par rapport à des gardes en ALSH. Pourquoi ? Pour que, quelque part, notamment les ressortissants agricoles, mais après, ce que peut faire la MSA pour les ressortissants agricoles, finalement, s'adresse à l'ensemble des populations du milieu rural.
Vous avez des exemples sur les territoires ?
Ah oui, tout à fait. Alors, il y a des, par exemple, des mutualisations de personnel entre différentes structures à LSH, de façon à ce qu'il puisse y avoir des empans d'ouverture beaucoup plus tardives, hein, ou beaucoup plus tôt le matin pour prendre en charge les enfants avant l'école et après l'école.
Est-ce que la MSA partage cette idée dans votre champ de compétences, monsieur, du désinvestissement de l'État, puisque la culture de la MSA, voire ses attributions, sont en train d'évoluer? Et à votre place, vous participez au service public sur le territoire. Comment est-ce que vous vivez la situation? Est-ce que vous rebondissez sur cette question du choix ou du désinvestissement de l'État, vraisemblablement souvent répété sur les
milieux ruraux? Oui, alors je ne le dirais peut-être pas dans ces termes-là, parce que je ne sais pas s'il faut parler d'un désinvestissement de l'État en termes financiers, hein, en termes de moyens. Par contre, ce qu'on peut regretter au niveau du milieu rural, c'est que le milieu rural n'est pas bénéficié de systèmes de gouvernance partagés sur des territoires qui sont en difficulté. Hein. Je ne dis pas cela pour l'ensemble des territoires ruraux, comme a pu en bénéficier, dans le cadre de la politique de la ville, certains quartiers en difficulté. Donc la difficulté, souvent, c'est de mettre en synergie les forces, les bonnes volontés, les convictions de différents acteurs, mais des acteurs qui s'appuient sur des légitimités différentes. Des élus locaux, des représentants d'institutions, des représentants des habitants via des associations, etc. Mais il n'y a pas ce système de gouvernance. Et je pense que c'est plus là où ça pêche, ce manque d'organisation de la gouvernance, qu'un retrait en termes de moyens financiers ou d'appui au développement des territoires ruraux.
Marie-France Bernard, la garde des enfants, le périscolaire, c'est un champ sur lequel vous êtes située, hein, pour la Fédération nationale ADESA.
Oui, absolument, parce que le souci de permettre la vie au travail et la vie à domicile est indispensable de répondre à cette préoccupation-là. Et aujourd'hui, par exemple, dans les innovations qui sont en train de se faire, j'étais la semaine dernière en Moselle et via l'aide de la CNAF et des caisses d'allocations familiales, se développent par exemple des maisons d'assistantes maternelles qui rendent possible l'accueil sur du collectif. Donc il y a beaucoup de précautions à prendre, bien évidemment, pour que cet accueil reste de qualité et sécurisant pour les enfants, mais cela permet aussi d'avoir des accueils, et dans ces communes, le maire me disait, c'est la plus belle réussite de ma part que j'ai eue d'avoir réussi à faire une maison d'assistante maternelle. Je permets désormais à des femmes qui vont travailler comme infirmières à l'hôpital d'à côté de poser leur enfant tranquillement enfants à 6h30, alors qu'elles n'auraient pas la possibilité économique d'avoir une garde à domicile. Donc je sais que c'est un des exemples qui peut poser des soucis, mais il est indispensable qu'on mutualise des réponses, parce que les réponses individuelles auront du mal à exister dans le contexte économique aujourd'hui. Et j'en profiterai volontiers pour rebondir à la question sur présence de l'État et investissement économique de l'État. La lecture que nous, on peut en faire, c'est que c'est des investissements seulement si l'on considère la non-réponse aux besoins. C'est-à-dire qu'en masse budgétaire aujourd'hui, l'État est aussi présent qu'hier sur tout un tas de volumes dans ce qui concerne notre activité de soutien de l'aide à domicile. Par contre, il n'y a pas eu de progression budgétaire depuis une dizaine d'années. Alors qu'évidemment, la réponse aux besoins des personnes malades, est différente et coûte plus, est plus onéreuse aujourd'hui qu'hier. Donc c'est plutôt de notre point de vue, dans ce sens-là où on peut parler d'État moins présent sur le territoire aujourd'hui.
Si je peux ajouter sur ce désengagement de l'État, l'Association des maires ruraux de France a calculé le coût de ce que pouvait représenter le coût d'un enfant dans les activités avec la réforme des rythmes scolaires. C'est à peu près 250 euros, voire 300 euros par enfant. Et l'État va nous allouer 55 euros par enfant. Donc, je pense que ces deux chiffres sont assez parlants.
Vous avez trouvé des vrais exemples concrets. Monsieur le maire.
Nous, on se bat, en tous les cas, pour que ce delta soit le plus réduit possible. Mais je sais que ça sera une bataille qui sera longue à gagner. Mais bon, on reste optimiste parce que, il y a des combats au quotidien qu'il faut mener. Et on verra bien la suite de ce combat.
Alors, autre volet, le travail, l'accès au travail sur les territoires ruraux. Il y a diverses questions en trame de fond. Il y a une partie des emplois en secteur rural qui ne sont pas délocalisables. Et ce sont peut-être des métiers, des services à la personne. Et puis, il y a une partie des emplois qui sont délocalisables, soit tout à côté, vers les grandes villes, pour des questions liées à de la logistique, ou vers des sites de production, nous dit-on, à main d'œuvre moins chère. Brice Alzon, est-ce que vous en savez quelque chose de tout cela comme président de la Maison des services à la personne? Et vous, en tout cas, pour votre activité, la question de la fiscalité et de la TVA vous impacte en particulier?
Alors, c'est un sujet extrêmement brûlant, puisqu'effectivement, cette semaine est sorti un décret qui va faire monter le taux réduit de TVA dans certains services, dans les services à la personne. Il y a 5 secteurs, jardinage, assistance informatique, mandataire, qui sont les 3 principaux donc touchés. Donc mandataire, c'est le soutien scolaire à domicile, par exemple, qui est extrêmement impactant.
Donc les familles en milieu rural, ce qui est l'objet de notre débat d'aujourd'hui, vont sur leur facture devoir payer plus puisque le taux
payer
de TVA
12% de
va
plus évoluer. Puisque là aujourd'hui on est sur une TVA sur des prestations de jardinage à domicile à 7% et là on va passer au 1er juillet à 19,6. Ça représente UNEP, qui est la fédération donc des paysagistes, 15 000 emplois dans les métiers du jardinage, et Source Syntec, qui est donc la fédération donc d'entreprises informatiques, 10 000 emplois de perdus. Donc ça fait 25 000 emplois potentiellement qui vont être touchés par cette augmentation donc de la TVA et qui va toucher directement et impacter directement le revenu de nos familles en région. C'est extrêmement impactant.
Alors vous qui êtes très organisé, j'imagine que vous avez pris votre bâton de pèlerin et que vous êtes allé peut-être même jusqu'à Bercy pour faire entendre votre mécontentement. Alors, que vous dit-on ?
Alors on a été même plus loin qu'à Bercy puisqu'on a été jusqu'à Bruxelles. Puisqu'à la base, l'histoire, c'est un avis donc motivé de Bruxelles qui a demandé à la France l'année dernière de se conforter à la réglementation européenne par rapport au taux réduit donc, et de TVA. Et dans les activités à taux réduit, en fait, c'est le soin à domicile et pas les services à la personne.
Il y a des nuances complexes. Donc c'est un dossier en cours. En tout cas, sur les questions d'emploi sur les territoires.
C'est un dossier clos aujourd'hui, puisque Bercy refuse d'aller au contentieux face à Bruxelles et préfère, entre guillemets, perdre nos 25 000 emplois. Voilà.
L'emploi en ruralité, c'est une question bien sûr cruciale, Jacques Drouin. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre communauté de communes du Bocage Gâtinais? Et comment est-ce que l'Association des maires ruraux de France réfléchit à cette question?
Je crois, comme je l'avais dit en préambule, il faut qu'on soit toujours inventif sur le territoire. Et donc, cette inventivité, eh bien, on la met au quotidien en place. On est sur des niches. Il faut qu'à tout prix que l'emploi soit un emploi de proximité.
Je crois que, non délocalisable.
Voilà, il faut qu'à tout prix, on réduise les temps de parcours, les temps qui fatiguent tout le monde. Il faut qu'on arrive à trouver des lieux où les gens se sentent bien pour non seulement y travailler, mais également aussi...
Par exemple, monsieur le maire.
Alors donc, voilà, on a des exemples. D'abord, il faut qu'on développe les nouvelles technologies. Je pense que la fibre optique, le développement du numérique, c'est comme on l'a toujours dit au niveau de l'Association des maires ruraux
de France. Ça, c'est pour faciliter le télétravail de vos administrés, c'est ça?
Voilà, je crois qu'il faut qu'on développe. Là, on a un projet de télécentre rural. Donc là aussi, il y aura
donc,
bien sûr...
Donc pour des grandes entreprises, leur proposer du télécentre, c'est-à-dire du traitement d'appel?
Pas uniquement. C'est pas trop... je dirais même que c'est pas la priorité. La priorité, c'est plutôt que des entreprises, des professions libérales trouvent un lieu identifié pour travailler ensemble. Je pense que souvent, le télétravail n'a pas toujours bien fonctionné parce qu'au contraire, il isole et les gens se dépriment en se retrouvant tout seul chez lui. Non, il faut travailler dans un lieu où les gens puissent être beaucoup plus performants et en même temps pouvoir échanger leurs activités. Et puis, il y a également aussi nous on est en train de mettre en place une auberge des entrepreneurs. C'est dans un lieu bien identifié.
Écoutez bien, hein, vous qui nous écoutez en Vendée, en Bretagne ou en Corse, c'est plein d'idées. Une auberge des entrepreneurs.
Voilà, c'est-à-dire qu'il faut essayer de mettre dans un même espace des artisans, des artistes qui n'auraient pas les moyens de s'offrir un local, et bien de se retrouver dans un lieu comme celui-ci, avec peut-être aussi un secrétariat partagé.
Avec une ambition économique, avec une concertation partagée pour travailler et être ensemble sur des projets.
Voilà, je crois que voilà, on est toujours en fin de compte, on parle d'une cohésion sociale avec les habitants, mais aussi d'une cohésion sociale au niveau de l'économie. Et ça, c'est un exemple.
Et c'est peut-être un exemple d'économie sociale et solidaire, puisque vous parlez de cohésion économique et sociale. On reste encore quelques instants sur l'emploi. Marie-France Bernard, est-ce que vous avez un point de vue là-dessus?
Un point de vue, oui. On peut nous permettre à des personnes qui sont à leur domicile d'être des salariés à temps partiel. On a surtout des emplois féminins et on a une capacité de former. Donc c'est important pour nous aussi que, comme le disait monsieur le maire à l'instant, qu'il y ait peu de kilomètres à faire entre le lieu de résidence de la personne qui intervient à domicile et le lieu de travail, si je puis dire.
Et j'entends formation dans votre contenu. Franck Darty.
Oui, alors moi je dirais, je peux parler plus spécifiquement de l'emploi agricole, et c'est vrai qu'au niveau de la MSA, on essaye de promouvoir un maximum un emploi agricole de qualité, notamment par rapport aux travailleurs saisonniers. Ça peut être des questions effectivement de garde d'enfants pour eux qui leur facilitent la vie. Ça peut être aussi des questions de logement de ces travailleurs saisonniers. Mais au-delà de cela, je parlais bien de population précaire tout à l'heure, d'arrivée de population précaire en milieu rural. Et je crois que notre rôle, c'est aussi de s'occuper de ces populations en amont de l'emploi, d'où le fait qu'on essaye aussi là de créer une offre de formation sur les territoires, parce que vous avez raison, c'est un manque, une offre d'insertion, des actions d'accompagnement social pour que les personnes puissent un peu se redynamiser, reprendre pied et aller vers l'emploi.
Les initiatives pour les familles rurales avec Didier Meyran.
Et cette semaine, ce grand format est consacré aux familles en ruralité. On essaye de mieux comprendre comment vous vivez, vous qui nous écoutez et qui êtes en famille, en secteur rural. Quelles sont les initiatives que vous pouvez ici ou là copier, coller pour que ça aille mieux sur vos territoires en ruralité. Et puis, bien sûr, vous pourrez nous faire part de toutes vos remarques. Vous en avez l'habitude. www.rcf.fr si vous souhaitez nous adresser des courriels. Vous avez toutes les modalités sur le site internet. Alors, parlons maintenant du transport. Le transport, là aussi, il s'agit de faire du lien entre les différentes communes de la communauté de communes, mais aussi au sein du département. Et pourquoi pas vers les villes de proximité où il y a de l'emploi. Et c'est une préoccupation de l'Association nationale des maires ruraux de France, Jacques Drouin.
Oui, je crois que là encore, on sait que si on ne prend pas le problème à bras-le-corps, c'est une des priorités en milieu rural, le transport. Comment se déplacer ? Aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a une désertification au niveau de tous les moyens d'aller d'un point A à un point B.
Là aussi, le Conseil Général désinvestit les transports ou est-ce qu'on maintient le budget ?
En tous les cas, les routes sont de moins en moins entretenues. Donc déjà, il faut que nous, les collectivités, on se débrouille pour que ces routes soient un petit peu mieux entretenues. Donc c'est à notre charge. Mais oui, par exemple, les transports réguliers de bus, on a de moins en moins en milieu rural. Donc les gens ne les prennent pas puisque c'est peut-être une fois ou deux par jour.
Il y a tellement peu de fréquences que c'est pas incitatif parce que c'est pas pratique.
Ben voilà, ça correspond jamais à quand on décide d'aller soit chez le médecin, soit dans
un
centre commercial.
Alors qu'est-ce qu'on peut faire, monsieur le maire, comment vous agissez ?
Eh bien écoutez, on a un très beau projet qui est en train de se finaliser. On est en train de mettre donc un transport à la demande, mais l'originalité c'est avec des véhicules électriques. Donc on travaille avec EDF et RDF qui sont nos partenaires pour cette initiative parce que c'est une première. Une première, on va être une vitrine sur comment le transport à la demande peut fonctionner avec des véhicules et où la population pourra se retrouver là avec un moyen de transport beaucoup mieux adapté puisqu'il suffira par une réservation de pouvoir demander à ce que ce véhicule puisse venir devant chez l'habitant pour pouvoir monter dans ce véhicule pour aller chez le médecin.
Ça, c'est pour les petits trajets, hein, le médecin, aller chez le dentiste, etc. Et pour aller travailler.
Ou pour aller au cinéma. Et également, bien sûr, pour aller travailler, puisque un tiers de la population va souvent travailler dans des centres urbains, donc souvent, ils sont obligés de prendre le train. Et donc, il y aurait la possibilité de prendre ces transports à la demande pour aller à la gare la plus proche.
Alors, j'imagine qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives de covoiturage, de partage de véhicules. Toutes ces initiatives se développent en particulier en ruralité. Et vous pouvez peut-être nous en glisser quelques mots, Franck Darty.
Oui, alors c'est vrai que nous, on travaille, que ce soit sur les transports ou dans d'autres domaines, on travaille selon deux axes, hein, je dirais, en termes de développement du rural. C'est d'une part soutenir justement les solidarités et les organiser. Et là, effectivement, vous avez raison, il y a pas mal de caisses qui se sont lancées dans des opérations d'organisation de covoiturage, mais au-delà aussi des caisses qui se sont, je pense notamment à la caisse des Côtes Normandes, qui se sont lancées dans ce qu'on a appelé du transport solidaire. Et là, ce sont des personnes retraitées, hein, le plus souvent, qui ont du temps libre et qui vont être d'accord, moyennant un remboursement de frais par les personnes qu'elles transportent, pour les transporter, pour aller faire des courses, comme vous l'avez dit, pour aller chez le médecin, etc. Alors, c'est vrai que ces services de transport solidaire ne s'adressent qu'à des personnes qui ne payent pas d'impôts. Parce que sinon, la caisse de MSA se retrouverait rapidement en procès avec les sociétés de taxes. Effectivement, bon, les gens qui ne payent pas d'impôts ne font pas appel au taxi. Et puis le deuxième axe d'intervention, hein, de travail pour nous, c'est aussi là de développer une offre de service. Et une offre de service, en termes de transport, on essaye de la développer en mutualisant les besoins. C'est-à-dire que si on cherche à répondre qu'aux besoins des personnes âgées qui veulent se rendre chez le médecin, on n'a pas un volume d'activité suffisant pour créer une structure de transport. Si on veut répondre qu'aux besoins des familles qui veulent emmener leur enfant le mercredi au centre de loisirs qui se trouve à 10 km, 15 km, 20 km, là aussi on n'a pas une offre suffisante. Si on mutualise tous ces besoins et si on organise effectivement les réponses à apporter, là il y a quelques caisses qui ont monté une offre de service dans ce domaine. Et là je pensais à la caisse de la Gironde par exemple.
Que nous saluons la Gironde. Vous nous écoutez sur le 88.9 en FM, puisque c'est l'émetteur de Bordeaux. Marie-France Bernard, sur cette question du transport et nous passons ensuite à l'accès aux soins.
Sur les transports, je voulais apporter deux éclairages particuliers. C'est que c'est un tel souci que nous, auprès des professionnels que l'on salarie, on a tout un volet de prévention des risques routiers, tellement on sait que c'est conséquent. Mais je voulais surtout insister dans la prolongation de ce que vient de dire Franck Darty, c'est qu'il faut aussi songer que parmi les auditeurs, il y a des familles qui ont des enfants porteurs de handicap ou qu'il y a des familles qui elles-mêmes sont en situation de handicap. Et c'est vrai que du côté des services à la personne, que ce soit sous le modèle de l'entreprise ou de l'associatif, là peu importe le sujet, on peut offrir des prestations qui permettent du covoiturage, du transport accompagné, peu importe les mots pour les auditeurs concernés, mais qui permettent aussi aux personnes qui vivent en milieu rural, avec des enfants en situation de handicap ou avec des où les parents sont en situation de handicap, qu'il y ait un accès aux services, un accès aux loisirs, un accès à la culture. Et c'est un des volets sans doute minoritaires pour un certain nombre d'auditeurs, mais c'est un volet essentiel quand on veut pouvoir continuer de croiser vie familiale et vie en milieu rural.
Alors, autre volet essentiel, l'accès aux soins en milieu rural. Et nous en parlions d'ailleurs très récemment. Je salue les organisateurs de la caisse de MSA des Charentes qui a organisé son assemblée générale sur cette question de l'offre de soins sur les territoires. Et je mets tout de suite sur le plateau les pieds dans le plat. Il y avait un témoignage d'une famille qui dit, ben voilà, nous, on avait 4 kinésithérapeutes dans notre commune. Ils arrivent à la retraite, ils partent tous. Il n'y a personne pour les remplacer. Pas de kiné qui viendront et ils n'ont déjà plus de médecins. Franck Darty, la question de l'installation des professionnels de santé en milieu rural, alors, ça c'est une question forte.
C'est une question forte, mais c'est surtout une question complexe. Je dirais, c'est un peu la quadrature du cercle, attirer les professionnels de santé en milieu rural. Alors, il y a plein de choses qui ont été essayées, hein, notamment, je dirais un peu la carotte. Hein, on n'a pas encore essayé le bâton, hein, mais en tout cas, la carotte, je dirais des primes à l'installation en milieu rural.
Les maisons médicales rurales.
Alors, les primes, pour parler des primes, manifestement, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas en ayant des primes à l'installation que les professionnels de santé iront s'installer en milieu rural. Par contre, et on avait fait une étude par rapport à cela au niveau de la Caisse centrale, il y a d'autres éléments qui peuvent permettre d'attirer les professionnels de santé en milieu rural. Tout à l'heure, Monsieur Drouin parlait du fait d'avoir un exercice professionnel isolé. Et je crois que les professionnels de santé, encore plus, n'ont pas envie d'exercer seuls sur leur territoire. Il y a quelque part une question de responsabilité, une question de sécurisation aussi des décisions qu'ils peuvent prendre. Donc on essaye de développer de la télémédecine, qui permet à distance, effectivement, de pouvoir échanger avec des collègues. Et puis surtout, dans cette idée d'échange avec des collègues, on essaye d'organiser un exercice professionnel regroupé au travers de ce que l'on appelle les maisons de santé rurales.
Les maisons de santé rurales, voilà. Où infirmières, kinésithérapeutes, médecins, peut-être même chirurgiens-dentistes, se regroupent dans une même maison de soins et peut-être ont un secrétariat commun et puis ils peuvent échanger sur leurs pratiques, ils ne sont pas seuls.
Voilà, et ils ne sont pas isolés et c'est plus attirant pour eux. Autre élément aussi pour les attirer, le fait justement qu'on leur permette, même en milieu rural, finalement, de continuer à accéder à des formations, parce que c'est vrai que ce sont des métiers qui demandent d'être toujours au courant des derniers éléments scientifiques qui sont sortis. Hein. Du moins, en tout cas, nous, en tant que clients, en tant qu'usagers, que patients, c'est ce qu'on leur demande, hein, d'être quand même au courant des dernières nouveautés. Donc aussi, l'accès à la formation pour les médecins, c'est important.
Est-ce que vous êtes pour une mise en place territoriale de l'offre de soins? Je précise ma question. Pour les infirmières, elles doivent s'installer sur des territoires qui sont dédiés à une nécessité de présence de soins. Ce n'est encore pas le cas pour les médecins. Pour aller vite, un médecin qui fait ses études à Paris ou à Bordeaux ou à Lyon, il va, dans la plupart des cas, aller s'installer et exercer dans une grande ville. Il n'a pas d'obligation territoriale. Et pour le kinésithérapeute, c'est pareil. Il va finir ses études après avoir fait son parcours de formation et il n'a pas d'obligation territoriale. Que dit la MSA là-dessus? Est-ce que vous en discutez avec les pouvoirs publics?
Il n'y a pas de position réellement arrêtée de la MSA hein, sur ces questions.
Pourtant, vous devriez avoir une position. C'est le régime agricole et rural.
C'est le régime agricole et rural, vous avez raison de le rappeler. Maintenant, là, on est en phase de politique gouvernementale et quelque part... En tant qu'organisme de droit privé ayant mission de service public, c'est pas vraiment notre...
Vous dites quoi au gouvernement?
Notre rôle, Pardon.
Vous dites quoi au ministère de la Santé, au gouvernement, comme d'avoir régime des... agricole, il n'y a plus de médecins en secteur rural. C'est notre affaire, ce que sont nos administrés.
Notre rôle, c'est de faire remonter les besoins, effectivement, des territoires ruraux, de soutenir des initiatives qui nous apparaissent intéressantes, comme nous en avons parlé, les maisons de santé en milieu rural. Après, juger du fait qu'il devrait y avoir, peut-être pour des professionnels de santé, une obligation à s'installer en milieu rural, là, quelque part, on laisse au pouvoir public...
Monsieur le maire, et puis Brice Alzon, sur cette question d'accès aux soins, Jacques Drouin, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qui peut agir ? Alors, on vient d'entendre que, bon, c'est pas le régime agricole qui va se saisir de la question. Est-ce que c'est l'association des maires ruraux de France ? Est-ce qu'il faut attendre les ministères ? Est-ce qu'il faut attendre la génération spontanée des professionnels de santé ? Apparemment, ça marche pas non plus. Ou est-ce qu'il faut attendre que vous ayez dans vos villages exclusivement, et c'est peut-être pas un mal, des médecins roumains espagnol, des kinésithérapeutes portugais. Mais c'est bien, hein, c'est peut-être l'exercice linguistique nouveau qui s'offre à chacun de nous. Monsieur le maire.
Vous donnez des idées, c'est bien.
Oui.
Non, je crois qu'aujourd'hui, ça devient intolérable. Je crois que...
ça devient
intolérable.
Intolérable.
Ben oui, quand maintenant des familles vont voir le médecin, c'est 3 heures, 4 heures dans une salle d'attente, mais c'est insupportable.
En Charente, on nous disait un an pour voir un ophtalmo.
Oui, je crois que c'est un peu la même chose dans d'autres départements. On est devant une situation qui devient de plus en plus compliquée.
Tout le monde est d'accord, monsieur le maire. Oui. Moi, je cherche pour nos auditeurs, c'est notre responsabilité.
Oui.
Qui peut agir ? Si c'est pas le régime, si c'est pas le ministère, si c'est pas les maires, qui peut agir ? On est d'accord sur le constat. Qui peut faire ?
Vous savez, on a des relais. Nous, on est des maires ruraux. Les relais, c'est qui ? Ce sont nos députés, ce sont nos sénateurs.
On renvoie ça aux parlementaires ?
Oui, je crois que la voix parlementaire est la voix aussi démocratique et
d'accord.
républicaine.
Est-ce que vous êtes pour la territorialité des professionnels de santé ? En gros, vous sortez de la faculté de Bordeaux, il y a tant de médecins en Gironde qui sont nécessaires, là à Rouillac, là à Saintes. Il faut aller là et là parce que c'est là que sont les besoins. Ou alors, on laisse encore le libre accès, et c'est peut-être bien, aux médecins et aux kinés et aux chirurgiens dentistes.
Je crois qu'on est dans une république...
Donc libre accès.
Exactement.
Pourquoi on l'a fait pour les infirmières alors ?
Ça, c'est des données qui sont pas de notre ressort en tant qu'élu. Mais moi, je trouve qu'il faut quand même donner cette liberté pour s'installer. Après, bien sûr, à nous
d'être suffisamment... Est-ce que vous ne craignez pas que si on maintient cette liberté, ça va pas faire évoluer les choses.
Je ne sais pas.
Brice Alzon.
Alors, je pense que sur cette question, le législateur doit trancher.
Alors, vous dites, il faudrait qu'il tranche.
Le législateur doit trancher. Il faut être beaucoup plus directif vis-à-vis des étudiants en médecine, dont le coût de la formation est quand même onéreuse.
Pour la collectivité.
Et oui, et qui est supporté aujourd'hui par la société. Et par rapport à ça, la société est en droit aujourd'hui donc d'exiger un retour minimum en termes donc, d'organisation par rapport à ça. Donc le législateur doit trancher à ce sujet-là.
Et votre sentiment, vous, comme président des maisons de services à la personne, vous êtes partout représenté en France, hein, vous intervenez auprès des familles en ruralité et dans les villes de France pour les soutenir au quotidien, et entre autres sur ces questions de soins. Vous dites quoi ? Vous dites qu'il faudrait imposer cette affaire de territorialité des professionnels de santé ? Ou vous dites, j'ai pas d'avis, laissons faire les parlementaires ?
Ah mais clairement, il faut que donc les parlementaires légifèrent à ce sujet-là.
On a compris, mais votre avis ?
Mon avis est de dire qu'effectivement, comme l'a très bien dit Jacques Drouin, on ne peut pas rester comme ça. Et il faut faire quelque chose rapidement.
Bon, mais on ne sait pas quel est votre avis. Marie-France Bernard, vous, quelle est votre opinion ?
Alors, si je ne suis pas forcément politiquement correcte, alors que peut-être que ma fédération le voudrait...
Mais... d'une fédération nationale voilà. À sa domicile.
Mais je pense qu'on a intérêt à ce qu'aujourd'hui, il y ait quelque chose d'inscrit dans la législation à la condition qu'il y ait vraiment l'accueil de ces professionnels de santé sur des regroupements, sur des comme le disait tout à l'heure Franck Darty, sur du travail en commun, sur des regroupements. Et aujourd'hui, par exemple, en Franche-Comté, nous, pour les auditeurs qui seraient de là-bas, nous, on sait qu'il y a des regroupements de centres de soins infirmiers qui travaillent ensemble et qui permet que le matin, 7 heures, on déneige pour aller faire la piqûre d'insuline nécessaire. C'est aussi ça, la présence sur le territoire. Mais il est indispensable que les professionnels de santé aient le moyen de travailler ensemble si on veut que l'obligation qui soit inscrite puisse avoir des effets. Sinon, ça restera incantatoire. Il y a des chances.
Vous savez que lorsque j'entends une région, ça sonne ruralité dans mes oreilles. Je ne manque jamais l'occasion de saluer nos auditeurs. Franche-Comté, c'est le 87.6 à Besançon. Et j'ai une auditrice très fidèle que je salue particulièrement et qui s'appelle Jeannette. Chacun la reconnaîtra puisqu'elle a eu des fonctions importantes à la MSA. Madame, vous n'avez pas répondu à ma question. Quelle est votre opinion sur l'obligation territoriale d'exercice des professionnels de santé? J'ai l'impression que nos auditeurs vont se dire, mais ah, le petit Didier Meyrand, là, il a du mal à obtenir une réponse à ces questions là aujourd'hui. Vous êtes pour ou contre, madame? Faut-il obliger l'installation territoriale des professionnels de santé? Dites-nous surtout,
oui,
pour nos auditeurs.
Oui, si on prend en considération un certain nombre d'éléments qui permettent un accueil de qualité sur ces professionnels. On ne peut pas demander à un étudiant en médecine de s'imposer le territoire qu'il ne choisit pas si à côté on n'est pas capable de donner de l'accueil à qualité de la vie quotidienne de qualité.
Actualité grand format. Être parent avec la MSA.
Dernière partie de ce grand format spécial consacré à la vie des familles en ruralité. Alors bien sûr, on ne pouvait pas être exhaustif, mais on a tenté à grands traits de poser des questions. Vous me direz, hein, vous qui nous écoutez, si c'était les bonnes questions, parce que je m'applique à ce que ce soit vos questions, quitte à bousculer un peu à droite et à gauche quand il faut. Alors maintenant, on va consacrer les quelques minutes qui nous restent à la parentalité, parce que c'est un gros mot, mais derrière ce gros mot, il y a de très belles choses. Alors la parentalité, peut-être vous pouvez commencer à nous dire comment vous l'observez, Franck Darty, du côté de la MSA.
Alors au niveau de la MSA, effectivement, on intervient plus au niveau du soutien à la parentalité, c'est-à-dire que quelque part, les familles, et là, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, rencontrent parfois des difficultés dans l'exercice des fonctions parentales. On pense notamment, mais chacun a pu le vivre en tant qu'expérience personnelle, par rapport à leurs enfants quand ils deviennent adolescents, certaines interrogations qu'on peut avoir aussi par rapport à des conduites à risque, comment réagir, etc.
Il y a des réseaux d'écoute.
Alors, il y a les réseaux d'écoute. Par rapport à ces réseaux d'écoute, c'est vrai que la MSA les soutient. Et comme toujours, quand on soutient des initiatives, des services, des structures, c'est pour qu'elles puissent se développer en milieu rural, de façon à ce que les populations du milieu rural aient les mêmes réponses que celles qui vivent en milieu urbain. Ces réseaux d'écoute et d'appui à la parentalité, c'est vrai que ça donne naissance à de nombreuses actions. Ça peut être des groupes de parole, d'échanges entre parents.
Est-ce qu'il y a un réseau d'écoute qu'on peut citer, que nos auditeurs pourraient trouver partout en France et facilement repérable, ou est-ce que c'est spécifique à chaque territoire?
Alors, il y a des réseaux d'écoute et d'appui à la parentalité sur l'ensemble des départements.
Comment les trouver, Franck Darty?
Alors, savoir les adresses, je
peut-être
pense...
Peut-être qu'il y a le site, un lien à faire avec les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, qui c'est REAP, R-E-A-P-P, sur lesquels on trouve des adresses.
Non, mais justement, là, on parlait des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents. On parlait bien d'un REAP. Par contre, effectivement, je n'ai pas d'adresse internet ou autre.
Voilà, en cherchant en cliquant REAP, on trouve des coordonnées sur le territoire. Voilà.
Qu'on chercherait
pour ceux qui ont
ensemble.
Accès à internet en milieu rural, puisqu'on parlait tout à l'heure de fracture numérique.
Alors, sur la parentalité, et puisque nous arrivons à la fin de notre échange, est-ce que l'un ou l'autre d'entre vous souhaite ajouter quelques mots, Marie-France Bernard?
Je veux bien dire un tout petit mot sur le rôle que peuvent jouer des associations comme les nôtres et de d'autres réseaux qui permettent dans le cadre des politiques de protection de l'enfance, de l'accompagnement à la parentalité, comme dans le cadre des politiques d'action sociale des caisses d'allocation familiale, sur le même type de dispositif que la MSA.
Jacques Drouin pour l'Association des maires ruraux de France, et nous terminerons avec vous.
Oui, ben je crois qu'aujourd'hui, il y a une réalité qui n'est pas très, très positive, hein. C'est le chômage qui augmente, c'est la précarité qui augmente, c'est les divorces qui se multiplient, et nous sommes, nous, les maires ruraux, le dernier rempart pour être à l'écoute de toutes ces familles, et Dieu sait qu'on est dans une situation qui est extrêmement préoccupante pour l'avenir de toutes ces familles qui sont de plus en plus fragilisées.
C'est la question de l'intergénérationnel, en effet, et si vous rencontrez des difficultés que vient d'évoquer monsieur le maire, pensez bien à la médiation familiale. Là aussi, vous pouvez trouver soit auprès des caisses de sécurité sociale, que soit le régime MSA ou d'autres, les coordonnées de la médiation familiale. Et puis, cherchez des ressources dans vos familles avec l'intergénérationnel. On n'aura pas le temps d'en parler là, mais une autre fois peut-être. Je vous remercie tous les quatre de votre présence et de vos éclairages. À bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Merci à toutes et à tous. Et puis vous, je vous retrouverai très très bientôt. Merci. Si vous souhaitez réécouter cette émission, www.rcf.fr et www.msa.fr en podcast pour plusieurs semaines. Au revoir.
La MSA et la famille. En partenariat avec la MSA, la protection sociale du monde agricole et rural.